Le peloton RMC.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous et prenez place dans le peloton RMC, votre podcast cyclisme. Vous nous rejoignez sur Instagram, maintenant vous le savez, sur TikTok, sur Facebook, @pelotonRMC pour débattre avec nous et être tenu au courant de nos dernières informations, évidemment. Composition du peloton RMC aujourd'hui, notre professeur Jérôme Coppel, notre leader aujourd'hui. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut à tous.
Jérôme, tu étais sur les routes du Tara, qui a été le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Acronyme a été pris par tout le monde, hein. Je crois que c'est le Tara maintenant.
Le Tara, ouais, voilà. Ça a été vite pris au final.
Salut Maria Azé.
Salut Georges, salut tout le monde.
Ça va, c'était bien cette semaine?
Bah, c'était bien jusqu'au moment où Jérôme m'a rejoint, jusqu'à samedi.
C'est moche.
Et comme par hasard, à partir de ce moment-là, il y a des choses qui sont passées.
Ouais.
Est-ce que c'est un chat noir? Je ne sais
on
pas.
On se demande.
Bonjour Maxime Martinez.
Salut Georges, salut à toutes et à tous.
Ils accompagnent aujourd'hui, voilà la team. Le sujet qui va agiter notre peloton aujourd'hui, Paul Sexas, un abandon et des questions avant le Tour de France. On va revenir, oui, sur cette semaine du Français de 19 ans contraint de renoncer, amoindri par une chute avant la fin de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La course ne s'est pas tout à fait passée comme prévu pour lui et son équipe d'ailleurs, avant le grand rendez-vous de la Grande Boucle. On va essayer de répondre à toutes les questions que l'on a et que vous avez certainement en ce début de semaine. Vous en avez l'habitude maintenant dans le peloton RMC. Bon, on commence par le briefing.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Briefing de Jérôme cette semaine parce que le peloton RMC s'adresse à tout le monde, hein, et même vous les cyclistes amateurs pour avoir de bons petits conseils, mon cher Jérôme, parce qu'on est à un mois de l'étape du Tour qui va nous mener de Bourdoisan à l'Alpe d'Huez. Et le prof a quelques conseils pour vous qui allez participer peut-être.
Oui, c'est ça, parce que hier avec Maria, on était donc à l'arrivée de la dernière étape du Tara, du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et j'entendais beaucoup de spectateurs parler bien sûr de cette étape du Tour, comme tu l'as dit, qui aura lieu le 19 juillet, 171 km, 5600 mètres de dénivelé. C'est exactement la même étape que les pros feront l'avant-dernier jour du Tour. Bref, un chantier, et j'avais mes derniers petits conseils à donner, alors sans rentrer vraiment dans le détail, mais je pense qu'il y a 2-3 pistes intéressantes pour pas faire d'erreur sur leurs objectifs. Alors d'abord, il y a un truc que certains vont pas avoir forcément envie d'entendre, mais à un mois de l'objectif, on va pas devenir vraiment plus fort, on va pas se transformer entre maintenant et le 19 juillet, parce que normalement le travail il est fait. Moi je le vois tous les jours dans mes centres d'entraînement, j'ai pas mal de membres qui vont faire cette étape du Tour et ils sont tous dans le même état, ils regardent le parcours 3 fois par jour, ils comparent les watts avec les copains, ils rajoutent une petite sortie pour se rassurer parce qu'ils se disent qu'il manque toujours un petit truc. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que ce n'est pas forcément une séance qui va vous transformer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que même si on se rapproche de l'étape du Tour, il y a encore énormément de choses qu'on peut optimiser. Et mon premier conseil, c'est justement d'arrêter maintenant de vouloir construire sa forme. Là, c'est le moment un peu de la stabiliser et de protéger sa forme. Parce qu'il y a un piège au mois de juin, c'est qu'il fait beau, on roule plus, on roule plus fort, on roule plus longtemps. Et la sortie avec les copains, ça se transforme en course. Et finalement, sans s'en rendre compte, en voulant faire bien, on rajoute de la fatigue et on va arriver au départ rincé. Ça, c'est le grand classique. On en rajoute un peu trop à l'entraînement et on arrive un peu cuit le jour de l'étape du Tour. Mon deuxième conseil, c'est de s'entraîner comme ils vont courir. C'est-à-dire, l'entraînement, il faut voir ça comme un entonnoir. Plus on se rapproche de l'objectif, plus les entraînements doivent ressembler à ce que les personnes vont vivre le jour J. L'étape du Tour, pour certains, ça va être 6, 7, 8, voire 9 heures de vélo. Alors, il faut accumuler des heures de sel. Là, il n'y a pas de secret. Il faut mettre le cuissard et il faut aller charbonner. Il faut faire des kilomètres, une ou deux grosses sorties par semaine, si possible. Ça serait l'idéal. Pas forcément plus vite, pas forcément plus intense, mais plus réaliste avec ce qu'on va trouver le jour de la course. Donc, si vous habitez dans la montagne, bah voilà, faut aller grimper des cols, monter, descente et cumuler des heures et du dénivelé.
Il ne faut pas se faire une sortie de 9 heures non plus. Quoi.
Non, pas une sortie de 9 heures. Mais par contre, ouais. C'est une très bonne remarque. Georges, on peut cumuler le temps qu'on estime le jour de l'étape du Tour sur 2 jours. Si vous prévoyez 8 heures, par exemple, le jour de l'étape du Tour, bah, si vous êtes dispo, 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche. Et ça permet de se rapprocher un petit peu du temps de course. Le troisième conseil, peut-être le plus important, c'est de tester dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, le matériel et l'alimentation. Teste rien le jour de la course, on doit savoir à peu près où on va prendre les ravitaux, combien de bidons on peut prendre. On parle beaucoup de la nutrition, des glucides à l'heure, etc.
Qu'est-ce qu'on digère bien ?
Voilà, qu'est-ce qu'on digère bien? Est-ce qu'on digère de la même manière quand il fait 35 degrés ou quand il fait 20 degrés au mois de juillet? On espère avoir du chaud. Est-ce que le braquet est adapté? Est-ce que le vélo fonctionne correctement? Bref, le jour J, on improvise rien du tout. Et mon quatrième conseil, c'est entraînez-vous à ralentir. Ouais, à ralentir, ça paraît un peu contre-productif, mais on roule souvent trop vite à l'entraînement parce qu'on veut une belle moyenne, on veut des jolis stats sur Strava, mais Strava, ça n'a jamais aidé personne à finir l'étape du Tour. Et c'est, au départ, l'étape du Tour, c'est comme au départ d'un marathon. C'est toujours la même histoire. On est excité, on a l'adrénaline et on part tous
tu
bien,
pars comme une
bien
balle
trop
et
vite.
Tu te fatigues.
Voilà, exactement, bien au-dessus de, nos niveaux, de notre niveau. Et l'objectif, ce n'est pas d'être le champion au kilomètre 40, mais c'est d'être encore un cycliste à l'Alpe d'Huez et pas un randonneur qui pousse son vélo pour essayer d'atteindre la ligne d'arrivée. Et mon dernier conseil, c'est de préparer la tête et le mental. Parce que l'étape du Tour, ce n'est pas un seul effort de 6, 7 ou 8 heures, sinon vous êtes mort d'avance. C'est une succession de petits moments. On en avait parlé, Georges, dans les GG, comment on repousse un petit peu nos limites. Et ben, c'est de prendre ça step by step, un col après l'autre, un ravitaillement après l'autre, un virage après l'autre. Il ne faut surtout pas penser aux 171 km d'un coup. Il faut juste penser à la prochaine étape.
Des objectifs courts.
Exactement, des objectifs courts et se souvenir d'une chose, c'est que l'objectif, c'est d'arriver au départ avec l'envie, les jambes et de l'énergie nécessaire simplement pour pouvoir passer une bonne journée de vélo.
Bon, ben voilà, magnifique les conseils du prof Coppel. On est à un mois, donc bon, ça veut dire aussi, là, on est à un mois, je ne commence pas à me préparer aujourd'hui pour le
non,
faire. Hein,
si... Ah, ben non, là, c'est trop tard.
C'est mort.
Ouais, déjà, tu n'as pas de dossard.
Oui, c'est ça, oui. Non, tu ne trouveras pas de dossard et tu n'arriveras pas à te préparer. Non, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs et auditrices qui se préparent à l'étape du Tour, donc évidemment. Évidemment, on sera là aussi avec Jérôme de temps en temps pour vous donner quelques conseils. Oh, tu nous avais déjà donné des conseils, je me rappelle, pendant l'hiver sur comment est-ce qu'on fait à sortir. Et c'est parfaitement précieux, on le sait, parce que bah, parfois on sort n'importe comment. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler quelques règles. Allez les amis, on va revenir au cyclisme professionnel. Retour sur la drôle de semaine de Paul Sexas au Tara. Vous l'avez vécu avec nous sur RMC.
Grosse chute de Paul Sexas, on a les premières photos, il est allé carrément dans le décor. Paul Sexas, il a été attendu par deux de ses coéquipiers, mais ils auraient 3 minutes 20 de retard sur le peloton.
Je suis surtout inquiet pour le Tour, là, quand on tombe sur les routes du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même une sacrée épine dans le pied qu'on se met parce qu'il faut d'abord, dans un premier temps, récupérer de la chute, et mentalement et physiquement, alors qu'on devrait être dans une phase un peu d'euphorie à l'approche de son premier tour.
Pour l'instant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, pas d'abandon pour Paul Sexas qui est en train de remonter. Ouais, avec Jérôme, forcément, on se met un peu à rêver, on se dit « Et si il arrivait à récupérer le peloton ? Et si, dans l'ascension hors catégorie du Grand Colombier, il arrivait à remporter l'étape ? Tout est possible avec Paul Sexas. » Ça y est, Paul Sexas est dans le peloton, il est même en tête de ce peloton avec les favoris de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'était assez drôle l'image, Paul Sexas qui remonte tout le peloton avec tous les coureurs qui tournent la tête sur leur gauche en mode « Ah ça y est, la fusée est rentrée, il est bien là ».
Franchement, c'est un des plus grands numéros que j'ai vu.
Il grimace, Paul Sexas, elles sont longues ces dernières secondes pour le Français. Voilà, il vient de franchir la ligne, Paul Sexas environ 1 minute 20 de retard sur Isaac Del Toro. Et il est parvenu à franchir cette ligne avec pas trop de retard au classement général. C'est tout simplement exceptionnel, environ à 85 km de l'arrivée. Paul Sexas abandonne, on dit qu'il souffrirait potentiellement trop des mains dans les descentes. En fait, il a encore des grosses blessures aux mains et donc dans les descentes, il n'arrive pas à positionner les mains sur son guidon et donc abandon pour Paul Sexas qui préfère ne pas prendre de trop gros risques.
Bon, heureusement qu'il avait des gants. Hein. Paul Sexas, il a répété plein de fois d'ailleurs après sa chute. Mais c'est vrai qu'on imaginait une autre course pour le Français, évidemment. Et notamment quand on avait présenté cette semaine. On n'aura pas eu à cause...
Les pronos de la moitié de l'équipe sont tombés à l'eau
À cause de ça.
Heures.
Ah bah oui, c'est vrai qu'on avait tous un peu annoncé la victoire de Paul Sexas. Hein. Malheureusement, c'est vrai qu'on a... On n'a pas eu, par exemple, le grand duel qu'on espérait avec Isaac Del Toro. Décidément, ils sont en train de rater à chaque fois un peu les moments. On l'a vu sur le Tour de Pays Basque où Del Toro avait abandonné. On a eu un peu sur l'Estrade Bianche, mais bon, Del Toro courait un peu pour aider Pogacar, ce qu'on verra certainement cet été aussi. Donc Del Toro qui a remporté l'épreuve en décrochant avec autorité les deux dernières étapes en haute montagne. Maria et Jérôme, vous étiez sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes cette semaine au plus près de Paul Sexas. Maria, déjà, là on est lundi au moment où on enregistre ce podcast, qu'est-ce qu'on peut donner comme information sur l'état physique de Paul Sexas?
Bon, globalement, ils sont pas très alarmistes hein, dans l'équipe Decathlon CMA CGM. On a vraiment tenu à rassurer un peu tout le monde. Hier, ça allait bien, hier matin. C'est pour ça qu'il est parti, tous les feux étaient ouverts et c'est vraiment au moment de monter sur son vélo où il a commencé à ressentir des douleurs qu'il n'avait pas le matin au réveil. Évidemment, quand on met un peu le corps en action, on commence à ressentir des douleurs qu'on ne sentait pas avant. Et donc, voilà, il a rapidement compris que ça allait être difficile. Il avait notamment très, très mal au dos dans les descentes. Il avait mal aux mains parce que ses mains étaient vraiment arrachées après sa chute. Donc ça, ça a été les grosses douleurs et c'est pour ça qu'il a abandonné. Il a discuté rapidement avec son équipe et son équipe lui a dit « Il y a des grosses échéances à venir, ça ne sert à rien de continuer, ne force pas. » Et donc, il a donné un petit mot dans les ordres, à la radio, à son équipe, à ses équipiers pour les remercier pour toute la semaine et leur dire « Désolé les gars », parce que c'était un peu pour eux qui continuaient, hein, vu tout ce qu'ils avaient donné la veille. On a vu une énorme force collective de Décathlon CMA CGM sur l'étape de samedi après la chute pour revenir, pour rattraper ses 4 minutes. Donc, il les a remerciés. Mais non, c'était trop dur. Donc là, c'est du repos. 3-4 jours de repos. Il est rentré chez ses parents voilà, en famille. Il va peut-être rouler un tout petit peu. Mais l'idée, c'est vraiment de guérir, de panser toutes ses blessures. Il va refaire quelques examens. Et ils vont décider s'il peut partir en stage. Normalement, c'est en fin de semaine, jeudi ou vendredi, repartir en stage en altitude dans les Alpes et continuer la préparation Tour de France parce qu'il y a encore des étapes à reconnaître. Et donc, voilà. Mais pas de fracture, pas de grosses blessures. C'est que des blessures superficielles, normalement, en tout cas.
Bon, on est là, évidemment, on compte les jours. On a notre petit calendrier, là. On met les petites croix avant le départ du Tour à Barcelone. On est à moins de 3 semaines, Jérôme Coppel. Est-ce que, malgré tout, c'est de nature un peu à être préoccupant sur la forme qui peut être la sienne au départ en Catalogne ?
Non, faut pas être trop alarmiste, comme disait Maria. Alors, c'est jamais bon de tomber, peu importe le moment, encore moins à 3 semaines du départ du Tour. Mais on l'a vu remonter sur le vélo, même s'il a abandonné l'étape. Il l'a dit lui-même, c'est plutôt superficiel. Donc, c'est sûr que l'énergie que le corps met à cicatriser, etc., c'est de l'énergie qu'il ne met pas dans la récupération ou dans les entraînements. Donc, ça va ralentir un petit peu sa préparation, mais c'est pas comme s'il était tombé à 1 semaine du départ. Donc, il y a quand même encore un petit peu de temps. Peut-être qu'il va déjà rouler de nouveau demain ou après-demain pour voir un peu comment ça va. C'est plus les courbatures. Quand vous prenez un choc à 70 km/h, alors bien sûr il y a les brûlures, mais après c'est comme si vous faites rouler dessus par un camion. Donc le lendemain, 2 jours après, vous êtes vraiment tout courbaturé de partout, et ça peut mettre un petit peu plus de temps à passer. Mais voilà,
si tu te fais rouler dessus par un camion, c'est même pas sûr, ouais, que tu te réveilles le lendemain. Mais
sinon, ça fait
un petit camion, une camionnette, quoi.
Ouais, mais on voit que t'es pas souvent tombé en vélo, Georges, parce que t'aurais bien l'image sinon. Crois-moi que t'aurais bien l'image. Et puis là, de toute façon, la reprise jusqu'au stage en altitude, enfin au rappel de l'altitude, ça va être de l'endurance fondamentale, donc de la basse intensité. Voilà, c'est un petit contretemps, mais rien d'alarmant en vue du Tour.
Ouais. Et on peut peut-être écouter Aurélien Paré-Peintre à l'arrivée. Hier, il en parlait, il a tenu vraiment à rassurer tout le monde. C'est un peu le papa du groupe, Aurélien Paré-Peintre, par rapport à tous ces jeunes. On peut l'écouter, Aurélien Paré-Peintre.
Non, avec ce qu'il a fait hier, après sa chute, on voit bien que les jambes, il les avait. Aujourd'hui, ça sert à rien d'insister, transpirer sur les plaies. On va repartir en stage d'ici la semaine prochaine, donc c'est bien qu'ils prennent tout de suite ces jours pour reposer. Je me fais pas de soucis, c'est vraiment que des plaies et des courbatures, donc avec les soins de l'équipe, ça va vite être oublié.
Voilà, c'est discours rassurant. Max, quand même, ça répond un peu, on a l'impression, à un mouvement de panique qu'il y a eu quand même ce week-end, hein, parce que premier accro dans sa carrière...
C'est sûr que cette chute, c'est ce qu'on disait, c'est une erreur de jeunesse. Il l'a dit lui-même après l'arrivée. Donc, il en a pris l'intégrale responsabilité. Après, dans la suite de l'étape, il y a eu la force collective de Décathlon CMA-CGM, mais il y a aussi la performance de Sexas, qui s'est quand même bien cravaché aussi pour revenir pendant près de 60 km. Et dans la montée finale, elle a lâché qu'une minute sur Del Toro dans la montée finale. Donc, bon, ouais.
C'est quoi, ça, c'est l'image que tu retiens, toi ?
Moi, c'est ouais,
la résistance,
ouais. Comme dirait Denis Charvet, la résilience. c'est vraiment ça. Il a été, moi, il m'a bluffé sincèrement sur l'étape de samedi. Et franchement, il a montré un courage. Il y aurait beaucoup de coureurs qui ont dit non, mais c'est la prépa pour le Tour de France. Je suis à 3 semaines du départ. Bon, je pose mon vélo sur la galerie, je rentre dans la voiture et puis on se retrouve à Barcelone. Il ne l'a pas fait.
Donc toi, tu regardes quand même une image un peu, malgré tout, positive de cette séquence-là.
Il apprend, il a appris, il a fait une erreur, et il a appris, et il a montré qu'il avait du courage pour faire ce qu'il a fait, ce qui est quand même assez impressionnant.
Jérôme, tu suis ce que dit Max ?
Je suis ce que dit Max. Moi, je vais même aller un peu plus loin. Hormis le résultat, parce qu'on s'attendait à voir Paul gagner le classement général ou en tout cas être sur le podium. Donc, hormis le résultat, moi, j'ai que du positif à tirer de cette semaine pour Paul et son équipe. On ne va pas répéter tout ce qu'on a dit, mais la force collective, la manière dont ils ont géré l'urgence, parce que quand vous êtes directeur sportif dans une voiture, que votre leader tombe par 3 minutes après, faut tout de suite prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on fait descendre toute l'équipe ? Est-ce qu'on en fait descendre qu'un, deux ? Comment on gère pour essayer de sauver notre soldat ? Là, ils ont parfaitement géré ça, et ils ont aussi bien géré finalement la suite, parce que on savait pas, moi je faisais partie de ceux qui disaient est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'ils reprennent le départ dimanche, parce que au mieux il allait faire éventuellement un podium, il n'allait pas retourner le classement général et battre Del Toro. Est-ce que ça valait vraiment la peine de prendre le départ? Voilà, Paul a décidé avec son équipe de prendre le départ et au moins d'essayer. Je trouve que il y a ce fait de course avec la chute, mais le reste, ils ont tout bien fait. Et ça montre quand même beaucoup de choses, parce que c'est bien d'être fort quand votre leader est fort, mais c'est bien d'être fort aussi quand vous êtes dans la difficulté. C'est aussi comme ça qu'on voit comment une équipe est capable de bien s'organiser, parce qu'au Tour de France, sur 3 semaines, il y aura des moments de feu. Pas forcément une chute, mais un coup de bordure, un mauvais placement, quelque chose. Il y aura forcément
tous les jours, il y a un départ d'incendie.
Tous les jours, il y a une urgence. Et si vous avez finalement, c'était un peu, alors il s'en serait bien passé, bien sûr, mais c'est un peu une répétition de comment l'équipe est capable de gérer les situations d'urgence.
Et c'est exactement les mots de Julien Jourdi. Hein. Aussi hier soir, le directeur sportif de Décathlon CMA CGM. C'est vrai que l'équipe a été un peu décriée, un peu critiquée après le contre-la-montre par équipe. Beaucoup de gens ont commencé à dire c'est quoi cette équipe, ils n'auront jamais le niveau pour le Tour de France. Au final, en fin de semaine.
Ils sont à 45 secondes de Wismar, je rappelle.
Ouais, et au final, en fin de semaine, ils arrivent à montrer qu'ils ont un énorme collectif. Et donc, Julien Jourdi le dit aussi, ça a été une semaine très très importante et où ils ont appris énormément de choses.
Je pense que c'est un point important, et surtout hier, hein, même si l'objectif était de gagner l'étape hier, on a livré un combat honnêtement qui était juste impressionnant. Je pense qu'hier on a vraiment fait une démonstration. Qu'est-ce que représente le collectif dans un sport individuel? On apprend dans la douleur, et je pense que c'est effectivement malheureusement un bel exercice pour l'ensemble du groupe, que ce soit en particulier Paul qui est un jeune coureur. On sait qu'un jour il y aura des pépins, une chute ou une défaillance.
Et c'est arrivé effectivement sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que quand même... Ça n'a pas amené un coup de clim non plus sur l'enthousiasme qu'il y a autour de Paul Sexas, mais en tout cas, ça a ramené peut-être un peu de raison, je ne sais pas si vous êtes d'accord, sur l'euphorie qu'il y a autour de lui. Quand il vient et nous dit effectivement, je suis tombé, c'est ma faute, hein, il n'y a personne qui m'a envoyé dans le fossé, c'est moi qui arrive comme une balle dans le virage.
Il a totalement pris ses responsabilités.
Non mais est-ce que quand même, ça ne nous rappelle pas, à tous hein, et toutes, hein, il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans, n'attendons pas qu'il arrive sur le tour en étant Pogacar, en étant Vingegaard, en étant un peu intouchable, le mec qui ne fait jamais d'erreur. C'est un retour à la raison, Max.
C'est sa fougue qui l'a
emporté. Et nous, on est dedans, on est responsables aussi.
Et on
aussi,
est dedans totalement. Mais oui, il n'a que 19 ans et il apprend. C'est le mot, je pense, de ce Tara Dauphiné, c'est « il apprend ». Il est en train d'apprendre, d'être un leader dans une grande équipe, dans une grande course, comme peut l'être le Tara et comme le sera le Tour de France puissance 1000 dans 3 semaines.
Parce que là, je vous entends, vous êtes tous très très positifs quand même
à la pédale, il n'a pas été lâché non plus. Donc, il n'y a pas de signaux warning rouge en disant Del Toro lui a mis 3 minutes à la pédale.
Et puis tout le monde tombe. Del Toro, voilà. Il est tombé. Ayuso, il est tombé cette année. Pogacar, il est tombé sur Paris-Roubaix l'année dernière. Tout le monde fait des erreurs. Voilà. Tout le monde tombe. Les grands leaders aussi. Donc, entre guillemets, ça fait partie de sa carrière. Ça fera partie de sa carrière.
Et les grands leaders, la plupart du temps, tombent au bon moment pour ne pas non plus se louper... et arrive à bien tomber pour ne pas être...
Mais excusez-moi, je me fais peut-être l'avocat du diable. Hein. Tic-tac, tic-tac, on y arrive. Le Tour de France, c'est là, c'est dans moins d'un mois. Son premier Tour de France.
Il tombera peut-être.
Il est très jeune. C'est un apprentissage express. Est-ce que lui et son équipe, là, aujourd'hui, ils sont vraiment prêts à affronter ce qu'est un Tour de France, Jérôme? Est-ce que ça pose pas quand même un peu de questions sur... là, tout est en train d'arriver d'un coup, effectivement, parce que les choses difficiles arrivent au dernier moment. On pourrait légitimement se poser cette question, Jérôme. S'il n'était pas français, on se poserait la question. Peut-être si on voyait Isaac Del Toro dans cette situation avant le Tour de France, il faut aussi qu'on fasse, nous, qu'on prenne un peu de recul. Est-ce qu'on se poserait pas cette question-là?
On se posait la question sur Del Toro avant le Dauphiné.
Oui, bien sûr, mais là, on parle du Tour, quand même, de l'approche du Tour, Jérôme.
Non, mais il n'y a aucune équipe, même UAE, même avec Tadej Pogacar, tu n'as aucune équipe qui arrive au départ du Tour qui dit « c'est bon, on maîtrise ». Le Tour, tu n'as personne qui maîtrise. Tu as des faits de course tout le temps, il y a des trucs qui se passent tout le temps. Tu ne peux pas maîtriser. Tu viens avec l'équipe que tu penses être la meilleure, avec la stratégie que tu penses être la meilleure et après avoir fait la préparation que tu penses être la meilleure. Mais quand tu arrives, quand ils vont arriver à Barcelone, les dés seront jetés sur la préparation et tout le reste.
Mais là, pour une équipe comme ça, Jérôme, il y a beaucoup de choses à assimiler quand même. C'est-à-dire que c'est un monde nouveau pour Décathlon CMA-CGM.
Non, parce que le fond de ta question, c'est quoi? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir les ambitions de Paul Sexas?
Non, pas du tout. Je me demande qu'est-ce que ça doit nous montrer, en fait, ce qui se passe.
Ça ne doit rien nous montrer. Ça doit simplement nous montrer qu'ils vont sur le Tour pour apprendre. Oui, c'est une situation nouvelle pour eux. Alors, nouvelle avec un phénomène aussi énorme, mais on rappelle quand même que Perrault ou Bardet, quand ils ont fait le podium sur le Tour, ils étaient déjà dans cette équipe-là. Donc, ils ont quand même une vague connaissance de comment gérer un leader sur une course de 3 semaines. Mais ils n'ont rien à perdre. Paul Sexas, il n'a rien à à perdre à aller sur le tour, peu importe le résultat qu'il va faire, et son équipe non plus. C'est full apprentissage pour tout le monde, et pour le coureur, et pour l'équipe. Et c'est ça qui va les faire grandir pour la suite. Maintenant, la chute, avec les infos qu'on a actuellement, que l'équipe a bien voulu transmettre au grand public et aux médias, il n'y a rien d'alarmant. Maintenant, une chute, c'est jamais anodin, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Mais à l'heure où on enregistre ce podcast, il n'y a rien d'alarmant par rapport à Paul, par rapport au Tour de France. Donc, il n'y a pas de raison pour l'équipe de changer
les plans. Mais après, le discours, Jérôme, de l'équipe pour aller sur le Tour, c'est pas on y va pour apprendre, on y va pour être ambitieux.
Ils y vont pour être ambitieux. Bah, heureusement d'ailleurs que tu vas pour être ambitieux. Mais si demain, ils y vont pour être ambitieux, j'ai lu une déclaration juste avant le podcast de Dominique Cérès qui disait le premier, c'est que Paul termine une course de 3 semaines. Le deuxième objectif, c'est qu'il apprenne. Et le troisième objectif, c'est qu'il fasse podium ou top 5. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de l'équipe Décathlon CMA-CGM. Mais si Paul, il a un trou d'air sur une étape et qu'il fait 10e du tour, qui va lui en vouloir? Il a 19 ans, on vient de le dire, il fait son premier Tour de France. Personne ne va lui en vouloir. D'ailleurs, Dominique Cérès, l'histoire du classement, il vient qu'en troisième objectif. Ce n'est pas le premier. C'est pas le premier. Donc, il n'a rien à perdre sur ce Tour de France, Paul Seixas. Il va aller apprendre, il va découvrir ses limites et il va voir. Et après, s'il y a le résultat, c'est la cerise sur le gâteau.
Je rappelle juste, évidemment, que CMA-CGM, c'est le groupe qui détient le groupe RMC-BFM. C'est toujours important de le rappeler, mais ça ne change rien. La teneur des propos que l'on peut avoir sur les différentes thématiques. Maria, tu voulais rajouter quelque chose?
Je pense que Paul Seixas prendra quand même moins de risques sur le Tour de France que là, sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en plus l'étape de samedi. Parce que samedi, il avait quand même 3 minutes de retard sur Luc Tocqueville, qui était le maillot jaune. Donc, il n'avait pas le choix de prendre quand même de gros risques. Bon, là, il y avait cette descente neutralisée. Il reprend, mais finalement, dans le virage, il dit qu'il arrive trop vite. C'est peut-être parce qu'il a voulu prendre trop de risques. Et on parle des équipes. Est-ce que Décathlon CMA-CGM est assez armée pour le Tour de France et assez, assez ambitieuse pour le Tour de France? C'est pareil, sur le Tour de France, ils n'auront pas le même statut qu'ils avaient là sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'était vraiment l'équipe leader.
Oui, Paul, tu veux dire, il y a d'autres équipes qui vont prendre le contrôle.
Là, le grand favori du Tour de France,
les UAE,
c'est Tadej Pogacar. Donc, finalement, Paul Seixas, il aura entre guillemets juste à un peu suivre le moment et tenter de suivre Tadej Pogacar en attaquant. Donc, il prendra un peu moins de risques et je pense qu'il aura quand même moins de chances de chuter.
Je suis totalement d'accord. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que c'est un collectif qui est en train de s'apprivoiser, qui est en train d'apprendre aussi comme Paul Seixas. Et que là, ce qui s'est passé, ça a été cette semaine une formation accélérée. Cette semaine, il y a eu le début de semaine où ça a été un peu compliqué. La première étape où Paul Seixas perd quelques secondes sur Honley et Vauclin.
Je rappelle que Richitello a abandonné sur la première étape.
Bisseger a eu un gros problème sur le chrono. Il a terminé à plus de 5 minutes de Seixas sur le chrono par équipe.
Alors que c'était censé être l'homme fort de ce qu'on
et voilà, et que c'est lui qui devait un peu emmener le mouvement, limite l'emmener pas jusqu'au bout, mais pas loin. Voilà. Et puis il y a eu ce qui s'est passé. Samedi, où on a vu la force collective de Décathlon CMA-CGM d'un coup, alors qu'on avait tous ces doutes depuis le début de la semaine, se mettre en branle et fonctionner. Donc, ils apprennent aussi. Et je pense que tout ce qui s'est passé cette semaine a amené au résultat de samedi.
Tu vois, Jérôme, t'as pas de doute sur la force d'équipe, la force collective, effectivement. Alors, c'est vrai que c'était une drôle de semaine, comme on le disait, parce que quand tu perds l'une de tes têtes comme Richitello, ça a perturbé forcément un peu les plans de cette semaine où on le disait, le chrono par équipe était aussi très important. Donc, il a fallu s'adapter, quoi. On n'a pas pu suivre l'ardoise, quoi.
Oui, c'est vrai, mais je sais pas si Richitello, ça a vraiment bousculé les plans, parce qu'au chrono par équipe, c'est pas lui qui allait être une locomotive de l'équipe. Bon, t'as toujours un mec de plus pour te prendre un ou deux relais de temps en temps, mais voilà, c'est pas lui avec son petit gabarit de grimpeur qui allait prendre des très longs relais. Et finalement, là où il aurait dû rentrer en jeu pour le dernier week-end, c'est là où Paul est tombé. Donc voilà, finalement. Mais moi, j'étais pas vraiment inquiet, même après le chrono par équipe. Alors la seule petite inquiétude que j'avais, c'est que Décathlon CMA-CGM était un peu en configuration Tour de France déjà. C'est plus ou moins l'équipe type qu'ils avaient mis, alors que les autres formations, même si Visma, ça ressemble un peu à ce qu'ils vont avoir autour, c'était pas 100% la même. Et j'estime pas ça comme une contre-performance, mais ils pouvaient faire mieux ce jour-là.
C'est un accident parce qu'il y avait des formes disparates.
Ouais, il y avait des formes disparates. Et en fait, je pense qu'un des gros problèmes qu'ils vont avoir, et ça, ils vont l'avoir encore à Barcelone, et je pense qu'on l'a pas assez souligné, en fait, c'est Paul. C'est... Bizarrement, c'est Paul Seixas qui va... Ben oui, il va trop vite. Il est trop fort. Et en fait, dans les bosses, on a vu Danouleux le freiner dans les bosses. Et en fait, il était... Mais ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai travail à faire quand vous avez quelqu'un qui est... Vaut mieux avoir 8 coureurs moyens que un bon un très bon et 7 hein, avec un niveau qui est vraiment en dessous. Parce qu'il vous fait mal tout le temps, ce gars-là. Et là, c'était flagrant. Je veux dire, c'est rare, moi, que je vois dans un chrono un mec qui dit à un autre, attends, ralentis parce que t'es en train de tous les mettre dans le rouge.
Un petit geste de la main.
Mais ouais, et en fait, c'est Paul, mais Paul, de nouveau, il a 19 ans. Donc lui, il a jamais fait de chrono par équipe comme ça. Donc lui, ce qu'il veut, c'est bourriner. Il doit bien sentir que ça va pas assez vite. Et lui, il veut en remettre, mais les autres, ils sont pas capables dans la bosse d'aller aussi vite que
alors,
lui.
Est-ce qu'il arrive
donc,
pas trop tôt, ce chrono par équipe de Barcelone, justement?
Bah, bien sûr que ça va être le manque d'expérience de Paul dans une équipe par rapport à l'homogénéité du groupe, etc. Mais de nouveau, avec le Dauphiné, enfin le Tara, ils auront appris un petit peu et ça, ils vont gérer. Et puis là, c'est pas du tout le même chrono quand même, hein, entre le Tara et Barcelone. Donc après, à la fin, il va pouvoir Paul partir tout seul si ça va bien, c'est un peu différent. Mais oui, voilà, il y a beaucoup de paramètres à regarder pour analyser ce chrono par équipe et on n'aurait pas assez le temps sur ce podcast pour tout analyser. Mais voilà, je pense que Decathlon ont vu ça et voilà, c'est un truc qu'ils vont devoir ajuster pour le tour.
Ça, c'est parce que Jérôme veut toujours faire un podcast dédié que au contre-la-montre, hein, au chrono qui s'appellerait Rouleur RMC. Que avec Jérôme. Jérôme qui se relance et qui se remet derrière. Alors, le matos, tu prendrais quoi? Les roues lenticulaires et tout. Chiant. Maria.
Vous êtes moqueur.
On parle de ce qui a changé les plans pour Decathlon CMA CGM. On va être très honnête. Je pense que l'abandon de Richie Tello, la contre-performance de Visseguer sur le contre-la-montre par équipe, certes, mais ce qui a changé les plans, c'est la chute de Sexas. Vu la remontée qu'il fait samedi, sans la chute, je pense que Sexas, il a un Del Toro dans chaque jambe.
Tu penses qu'il n'est pas loin de jouer la victoire, peut-être?
Je pense qu'il joue très, très largement la victoire.
Moi,
c'est
la question que j'avais justement après avoir vu l'étape de vendredi, où il n'arrive pas à lâcher Del Toro. Et moi, c'est l'impression visuelle
c'était
que j'ai...
C'était pas des grosses côtes, quand même,
voilà,
vendredi.
Voilà, c'était pas d'énormes pourcentages. Mais l'impression visuelle est que moi j'ai sur mon canapé, c'est de dire est-ce qu'il est vraiment au-dessus. J'ai eu un doute à ce moment-là, mais vous qui étiez là-bas,
moi quand je vois l'étape
Jérôme
de samedi,
Maria,
je me dis qu'il était largement au-dessus. Oui. On voit vendredi, c'est difficile de. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais je trouve que c'est dur de se faire un avis sur vendredi parce que les côtes étaient vraiment pas très longues. Il n'y avait pas d'énormes pourcentages dans le plateau de Solaison. Après, je vois pas comment Del Toro il tient.
Après,
la
il fait péter
Texas.
Tous les autres. Hein.
Après, il fait péter tous les autres, mais Jorgensen, bon, à la limite, c'était peut-être Ayuso qui était le meilleur, on va dire meilleur troisième. Mm. Mais
Jérôme, sur les capacités de Sexas qu'aurait eu à affronter vraiment Del Toro dans un duel.
Alors, en tout cas, il aurait fait au moins jeu égal, je pense, avec Del Toro. C'est dur à dire. Par contre, j'ai pas eu l'impression que vendredi, Paul a vraiment couru pour. Enfin, j'ai pas trop couru
pour lâcher
la stratégie
Del Toro.
Pour lâcher Del Toro.
C'était
parce qu'il s'est mis devant. Voilà, c'était pour se tester. Il s'est mis devant, il a roulé. Il avait paillé tous les autres, mais pas Del Toro. Voilà, et si vraiment il avait voulu le lâcher, je pense qu'il aurait couru un petit peu différemment. Et s'il avait toujours en tête, bah, justement, les deux étapes du week-end. Après, je pense que Paul a quand même intrinsèquement un peu plus l'avantage sur des cols longs que Del Toro, même si Del Toro est très très fort, il a failli gagner un Tour d'Italie, donc il n'y a pas de problème ça. Mais je pense que plus le col est long, plus ça avantage Paul, par contre. Donc, mais on ne saura jamais. Là, on va fantasmer sur tout ce qui aurait pu se passer. On ne le saura pas.
C'est du cyclisme fiction.
Voilà, c'est du cyclisme fiction. Par contre, moi, je ne m'attendais pas à voir un Del Toro si fort, surtout hier au plateau de Solaison. Et je pensais qu'il allait plutôt encore monter encore en pression en vue du tour, ce qui va certainement arriver. Et ça, par contre, ça m'inquiète un peu pour le suspense au mois de juillet.
Ah bon, justement, alors qu'est-ce que ça nous dit de la concurrence, ce Tara? C'est quoi que c'est que les UAE vont être indébordables?
Bah, soyons très honnêtes, Isaac Del Toro, je pense que dans n'importe quelle équipe, il est leader, excepté chez lui. Donc concrètement, quand t'as peut-être top 4, t'as deux du top 4 mondial dans ton équipe, enfin, ils vont écraser tout le monde.
On rappelle, il a gagné Tirreno, il a gagné l'UAE Tour cette année.
Il a déjà 29 victoires, il a 22 ans.
Il y a un scénario probable où ça fait un Pogacar de Del Toro. Hein.
Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible.
Jonas Vingegaard a l'air fort quand même.
Oui.
Mais
avec un Tirreno dans les pattes.
Ouais, avec un Giro dans les pattes. Mais l'enseignement du Tara, c'est que moi, je trouve que collectivement, toutes les équipes de favoris ont vachement progressé par rapport à l'année dernière. Alors, bien sûr, on a parlé de Decathlon avec Paul Sexas, mais Visma, Lisebike, que ça soit au Giro ou même au Tara, quand même, ils ont très bien couru, même si Jorgensen est un peu limité. Menard Hagen a très bien couru. Enfin, voilà, collectivement, je trouve que Visma, ils sont bien plus en place qu'ils l'étaient l'année dernière. Première chose. Et UAE aussi, là, avec Del Toro qui arrive pile poil au bon moment, bah, quand ton lieutenant numéro numéro 1 gagne le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, ben voilà, ça te pose un peu le décor. Donc toutes les grosses équipes, à part peut-être Netcompany, Ineos, qui...
ah bah ils ont été décimés par la grosse chute d'Only et Vauclin a été en difficulté.
Enfin voilà, je pense que Only pour le moment, en tout cas sur ce Tara, il n'aurait pas joué.
Oui oui,
dans,
il n'était pas dans le jeu. Quoi.
Voilà, il n'était pas dans le jeu. Ouais. Donc, mais sinon les autres grosses formations, bah elles ont toutes montré depuis le Giro que collectivement elles sont là, stratégiquement elles courent très bien, que ça soit dans la difficulté comme on avait avec Decathlon ou pour aller gagner une course, une étape. Ben bravo, moi j'ai hâte de voir. Même si je pense que Pogacar et son équipe sont encore au-dessus.
Ouais, le gros point noir aussi pour cette équipe Netcompany Neo, c'est depuis qu'ils ont changé de maillot. Hein. Je trouve que c'est
le maillot gris.
Le maillot dégueulasse. Ah ouais, non, mais ça c'est pas du tout.
Il y a
non,
quelque
pardon,
chose.
Excusez-moi. Hein,
il y a quelque chose d'accord. Pas impossible, c'est qu'ils troquent ce maillot sur un maillot jaune après le chrono par équipe à Barcelone. Parce que sur le chrono par équipe, avec Only qui a eu un pépin matériel pendant le chrono, ils étaient quand même très très forts.
Oui, oui, ils étaient très forts. Ça, c'est sûr que sur l'exercice. Mais ça, vous l'écouterez évidemment dans le podcast dédié de Jérôme qui reviendra sur toutes les performances individuelles et le matériel sur le chrono rêve. Par équipe. Mais moi, je l'écouterai. Hein. Je le ferai avec
moi
toi.
Moi aussi.
tiens, je voudrais qu'on revienne sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Maria. Tu as dit il a pris des risques pour revenir notamment. Est-ce qu'il le ferait peut-être sur le Tour de France, sur le Tara, donc là, au moment où il fait où il a chuté. Moi, la question quand même que je me pose à l'issue de cette épreuve, c'est est-ce qu'il ne peut pas aussi être un peu emporté par l'euphorie, Paul Sexas ? Parce que Jérôme, moi, je t'écoutais ce week-end, tu nous disais, j'ai jamais vu autant de monde que cette année sur le Dauphiné, le Tara, parce que c'est vrai, voilà, moi j'en ai couvert aussi, hein, habituellement, c'est pas, il y a du monde, mais
à
part le dernier week-end, de toute façon, vous les voyez vous-même à la télévision sur les dernières ascensions, c'est pas souvent la bousculade, quoi, on va dire. Là, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de médias aussi, et même dans les déclarations de Paul à l'issue de l'étape samedi, il dit « je voulais le faire aussi pour les gens, je sais qu'il y a du monde derrière moi maintenant ». Est-ce que l'un des pièges pour lui aussi, c'est pas un peu de céder à l'euphorie, Jérôme ? Est-ce que tu le sens comme un piège à ne pas prendre ?
Alors oui, c'est un piège à ne pas prendre. Paul, je trouve qu'il a beaucoup de recul sur la situation, que ce soit dans ses interviews, dans sa manière de courir, etc. Il est très mature pour son âge, mais tu es obligé à 19 ans, peu importe ton âge d'ailleurs, quand tu deviens une superstar, parce que finalement, Paul, il a gagné le Tour du Pays Basque, mais il n'a encore rien prouvé le Tour, etc. Mais il est déjà en train, en tout cas en France, de dépasser le cadre du vélo.
Il ne peut pas être imperméable totalement à ça.
Mais non, c'est impossible d'être imperméable. Et d'ailleurs, dans sa manière de courir, on voit qu'il a 19 ans, on voit qu'il veut faire un peu le show. Alors, il descend très bien, mais on avait déjà fait la remarque au Pays Basque. Quand il a le maillot jaune sur le dos, il prend des risques dans la descente.
Est-ce qu'il n'en faisait pas un peu trop ?
Il en faisait déjà un peu trop, parce que c'est ses qualités aussi d'être un très bon descendeur. Mais c'est là où son équipe doit le freiner un peu. Faut pas en faire trop, faut pas surjouer non plus, au risque de partir à la faute, ce qui est arrivé le week-end dernier.
Son papa a dit cette semaine, il en fait un petit peu moins trop par rapport à avant. Non mais peut-être que dans ces mots-là, il y a la conscience aussi que c'est quelque chose à cadrer.
Sur le Tour du Pays Basque, il faisait peut-être un peu trop.
Mais ça vient aussi de l'engouement populaire et de l'euphorie qu'il y a autour de lui.
Et sa personnalité en plus, donc ça le décuple.
Ouais. Mais voilà, tout est décuplé et c'est là où faut pas tomber dans le piège, parce que autant cette année, si on reprend le Liège-Bastogne-Liège par exemple, il arrive à suivre Pogacar dans la redoute, après il lui prend des relais, très bien, c'est magnifique et c'est très bien qu'il ait fait ça, de toute façon ça allait rien changer à la fin de la course, mais plus tard, typiquement moi je serais pas d'accord qu'il refasse ça, parce que là il est jeune, etc., mais après il faut aussi jouer, si tu sais que t'es un peu moins fort que l'autre, faut aussi jouer avec lui, mais là il est pris dans l'euphorie de montrer qu'il est là, qu'il a le même tempérament que Tadej Pogacar. Il fait pas exprès, hein, c'est vraiment son tempérament. Je veux dire, Tadej Pogacar et lui, au-delà de leur qualité physique, ils ont le même tempérament, ils veulent jouer sur un vélo et leur délire c'est de se mettre des cacahuètes et de voir lequel va craquer en dernier.
Non mais il a grandi avec ça en plus,
il a grandi avec ça,
c'est l'expression qu'il avait envie d'avoir sur un vélo.
Tout à fait. Et c'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'en plus, il a grandi avec les exploits de Pogacar, même de Remco Evenepoel, si en âge, ils ne sont pas très éloignés, mais voilà, qui font des raids solitaires, qui partent de loin, etc., comme il a pu faire Paul en début d'année en Ardèche. Plus le public qui est là, je veux dire, on est monté avec Maria le plateau de Solaison. Il n'y avait qu'un nom qui était écrit sur la route, c'était Paul Sexas, du bas jusqu'en haut. Le public, les t-shirts, etc. Tu es obligé à 19 ans de te faire prendre un peu par l'euphorie. Et c'est pour ça que là, il a eu un premier panneau stop en en disant bah, attention, ça y est, ce coup-ci, tu as dépassé les bornes et tu vas ralentir un petit peu en vue du tour. Et finalement, bah, c'est mieux que ça arrive là qu'au mois de juillet, quoi.
Le matin en bus, c'était impressionnant. Toute la semaine, y a pas, comme tu le disais, Georges, il n'y a pas énormément de monde sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'était simple. La foule était concentrée autour du bus de Décathlon CMA-CGM. Donc, il y avait tout un petit rituel. C'était hyper bien organisé. Il sortait tous les jours faire ses petits autographes. Au bout d'un moment, plus de photos que des autographes, mais on limite à 2 minutes pour la récupération. Enfin, on sentait qu'ils essayaient de se roder un peu aussi pour le Tour de France. Donc, mais il y a un énorme engouement autour de lui. C'était impressionnant tout au long de la semaine. En plus, il n'était pas loin de chez lui.
Et non, mais il dépasse le cadre du vélo. Enfin, Paul Sexa, ça fait le 20h quand même de France 2.
Ça, c'est incroyable.
C'est un truc incroyable. Il a 19 ans. Enfin, j'ai jamais vu ça. Enfin, ça fait quelques années qu'on suit tous les trois ce sport. J'ai jamais vu ça. Il y a eu des articles dans Le Monde sur Paul Sexa.
Dans le New York Times.
Dans le New York Times, c'est un
et il a encore pas participé au tour. Hein.
Voilà. J'ai des potes qui ne suivent absolument pas le sport en général qui me parlent de Paul Sexa. C'est un truc de ma boule.
Non, mais effectivement, et même dans la couverture de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, un petit peu partout dans le monde. Hein, enfin, nos confrères belges, néerlandais, les anglophones également. C'est vrai que ça tournait essentiellement autour de Paul. Hein, avant que Del Toro, on va dire, prenne les choses en main sur le dernier week-end.
Mais même pas.
L'histoire tourne autour de lui.
Mais même pas. Hier soir au protocole, il y avait personne pour faire Isaac Del Toro en interview. Tout le monde attendait Décathlon CMA-CGM pour avoir des nouvelles de Paul Sexa.
Tu veux qu'on l'appelle, Isaac?
Voilà, qu'est-ce que t'as, Isaac?
Isaac, t'es bien? Chez nous, on s'intéresse à toi.
Perdonne.
non, mais c'est vrai que ça va être intéressant. En tout cas, c'était aussi pour ça une répétition importante pour Paul Sexa, dont on a parlé également en cette fin de week-end, début de semaine, de voir arriver dans son entourage, dans l'entourage de l'équipe, un nom bien connu, celui de Romain Bardet, dans l'équipe Décathlon CMA-CGM, qu'il connaît très bien, évidemment, il a grandi là-dedans. Et aussi, il connaît tout le monde, hein, Julien Jourdi. À quel point cette venue est une possibilité aujourd'hui, Maria?
Oh bah c'est...
Et dans quel rôle?
C'est plus que des discussions très avancées. Alors, on n'a pas encore... C'est pas hyper, hyper clair. Hein. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il arriverait. Ce serait probablement annoncé avant le début du Tour de France. Mais on ne sait pas s'il sera sur le Tour de France ou alors dans quel rôle. On ne sait même pas trop il arriverait dans quel rôle. Est-ce que ce serait directeur sportif ou alors... un proche de l'encadrement de...
Un super directeur sportif, peut-être.
Un super directeur sportif, très proche de l'encadrement de Sexa, très probablement, lui apporter toute son expérience de leader, voilà, de conseiller à la performance. On ne sait pas exactement pourquoi il vient, Romain Bardet, mais en tout cas, vu son palmarès, vu sa carrière et vu l'importance qu'il a au sein de Décathlon CMA-CGM, on sait qu'ils ne le font pas venir pour...
C'est tout bénef pour Sexa bah, si ça sûr, se produit. Hein, franchement, d'avoir quelqu'un qui a l'expérience de Romain Bardet... qui est quand même à approcher ce truc de gagner le Tour de France dans sa carrière à plusieurs reprises. C'est tout bénef pour lui.
Et c'est aussi une incarnation qui peut être intéressante pour l'équipe, ne serait-ce aussi que pour les médias, d'avoir quelqu'un comme Romain Bardet pour
représenter l'équipe. Un ambassadeur de prestige pour Décathlon CMA-CGM.
Jérôme, tu verrais ça comment, toi?
Alors moi je vois ça d'un très bon œil. Déjà je trouve qu'en plus ils ont beaucoup de similitudes les deux. Ils sont très, alors ils parlent très bien aux médias, ils sont très pointilleux dans l'entraînement, dans le matériel, très sérieux avec les stages en altitude, etc., etc. Donc sur ce point-là ils se rejoignent bien. Et puis je pense que Romain il servirait plus de passerelle entre Dominique Siries et son équipe, donc le côté un peu plus dirigeante de l'équipe et le côté sportif. En fait, il ferait un peu le lien, j'imagine, entre tout ça, avec quelqu'un qui parle, alors qui était ancien coureur il n'y a pas longtemps, qui parle la même langue que Paul Sexa. Donc moi, je vois que du positif à ça. Maintenant, le rôle exact qu'il va avoir, je ne sais pas, mais je le vois bien faire un lien entre Kiclet, le responsable de la performance, qui était l'entraîneur de Romain Bardet, Dominique Siries, le responsable des directeur sportif, voilà, de faire un peu le lien avec tout ça pour que Paul n'ait pas non plus 18 interlocuteurs à chaque fois. Voilà, peut-être que c'est là-dessus, mais en tout cas, il va forcément apporter des choses de par son expérience personnelle, Romain Bardet. Puis il a terminé dans une équipe étrangère aussi, donc ça pourrait aussi apporter d'autres choses.
Mais il avait déjà beaucoup changé cette équipe, Romain Bardet, hein, quand il était à l'intérieur, sur la façon de travailler, sur les méthodes d'entraînement, sur la nutrition. Bah, voilà, hein, Julien Jourdi, Vincent l'a venu en parler à l'époque sur ce que leur avait apporté Bardet en termes de professionnalisation aussi, de passer à autre chose. De toute façon, ce ne serait pas pour le Tour de France, Maria. derrière.
Non, non, probablement que non. Et alors après, il y a quelque chose aussi d'important, c'est qu'il faut penser que le contrat de Paul Sexa, c'est pas complètement indéfini chez Decathlon CMA CGM, et c'est peut-être aussi une manière pour eux de garder Paul Sexa, de lui faire un encadrement autour de lui, un encadrement de gens avec qui il se sent bien, et probablement qu'avec Romain Bardet, ça doit très bien se passer.
Ce sera forcément important. Bon, les amis, Paul Sexa, voilà, un abandon qui interroge. On se met d'accord, pas d'inquiétude, ça ne remet pas en cause tout l'enthousiasme qu'il y avait autour de Paul, mais c'est un rappel à l'ordre, peut-être un petit peu pour tout le monde, sur n'oublions pas que c'est un coureur de 19 ans et que il faut pas s'attendre demain à ce qu'il vienne bousculer Tadej Pogacar tout de suite, parce qu'il est encore sur un processus d'apprentissage. On est tous d'accord ?
On est d'accord.
Ouais. On est d'accord.
Ouais. Bon, mais on s'enflamme quand même un peu. Allez, tout de suite, le sprint final.
Le sprint final du peloton RMC.
Alors là, les amis, on va falloir tout de suite voir qui est le plus compétent sur les 10 questions que je vais poser jusqu'à maintenant. Ce sont les leaders qui auraient été les plus performants, hein, Jérôme Pinot et Jérôme Coppel.
On va laisser un peu.
Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais Jérôme, c'est le leader. C'est Pogacar, c'est genre, je vais laisser gagner aujourd'hui Cosnefroid, bah comme
non,
ça,
j'ai bien essayé, de te soudoyer ce matin, ça n'a pas marché, Georges.
C'est une vraie histoire, il m'a dit envoie-moi les questions. ça a été très clair en moi. Voilà. Il va passer par quatre chemins, quoi. Allez, les amis, vous jouez chacun pour vous, évidemment. C'est un Kikadi. Qui a dit cette semaine, je suis stupide? Le rythme n'était pas très rapide, alors j'ai attaqué, mais c'était beaucoup trop loin. Juan Ayuso, effectivement, qui reconnaît avoir été stupide. Juan Ayuso. Elle était possible, celle-là.
Ouais, totalement.
Il a effectivement attaqué de trop loin.
Hein. Ah, voilà.
Il s'est complètement enflammé, Juan Ayuso. Hein. Deuxième question. Qui a gagné le Tour de Suisse qui commence cette semaine, dont on va vous proposer le roadbook? Qui l'a gagné l'année dernière? Je vous donne un indice. Il fait partie d'une équipe dominante. Très dominante. Non. Éliminé, c'est une seule
garde.
Non.
Une équipe très dominante.
L'équipe la plus dominante.
Pogacar.
Almeida.
Non, Almeida. Almeida, Maria. Un partout. Jérôme, Maria, Max, il faut se réveiller. On révise le parcours du tour, les amis. Ah. Où se jouera l'arrivée de la 15e étape cette année?
Plateau de Solaison,
bien sûr. Évidemment, on l'a révisé sur le Tara cette semaine. Les amis, est-ce que vous avez été attentifs au top 10? Combien y avait-il d'Espagnols dans le top 10 du Tara cette année? Une seule réponse possible.
3,
Jérôme Coppel. Juan Ayuso, 3e. Cristiano Rodriguez, 8e. Et José Félix Para, 9e. Ça nous permet d'étudier l'équipe Caja Rural, que l'on verra sur le... Tour de France cet été. Isaac Del Toro a donc gagné le Tara. Une seule réponse possible, les amis. En quelle année a-t-il gagné le Tour de l'Avenir?
2023,
Max. Assez sereinement. Hein. Assez sereinement, mais avec des petits papillons dans le ventre.
Il a fallu que ça monte au cerveau et que ça redescende.
Tu finiras pas Fanny comme non. François de la Taille, que je ne citerai pas.
Mince.
Et Max et Pierre Couachette, je crois, aussi, le premier jour. Ah, comme quoi on se la raconte, on est des geeks et tout ça. Hein. Les romans geeks.
Ça veut dire que j'ai fait mieux que mes chefs.
Ça veut dire que tu peux aller les chercher. Voilà, c'est ça. Ou sinon, tu fais comme Juan Ayuso, tu changes d'équipe. Non, reste avec nous, on a besoin de toi. Allez, les amis. Comment s'appelle la classique remportée par Paul Magnier ce week-end?
Le mur de Gramont.
Oui, la classique mur de Gramont. Mythique lieu du Tour des Flandres. La classe. Maria prend le lead. Jérôme, tu joues. Les amis, on revient au Tour de Suisse. Qui est le dernier vainqueur du Tour? Quelqu'un qui avait gagné le Tour de France et qui a gagné le Tour de Suisse.
Vingegaard?
Non.
Froome?
Roglic, non?
Non. Le dernier vainqueur du Tour à avoir gagné le Tour de Suisse. Non. Allez-y, vous commencez à être pas loin. Vous commencez à être pas loin.
Thomas?
Gagne Thomas, Max. C'était en 2022. Ah, attention. Maria, 3 points. Max et Jérôme, 2 points. Il reste 3 questions. Et si jamais vous êtes à égalité à la fin, je serai dans la panade. Quel était le dossard de Paul Sexa sur le Tara?
51.
Maria. Non, impossible. Ouais, mais la vidéo.
Le point est pour moi.
Bah, c'est moi. Non, mais réécoutez.
On va demander à Roxane. Roxane,
notre productrice. Le point pour Maria.
Quel vol.
Ça fait donc 4 points pour Maria. Maria qui peut donc assurer la victoire. Il a terminé deuxième du Tara, les amis. À quel grand tour va participer Luc Tukwell cette année?
Vuelta.
La Vuelta, Max. Jérôme vient de me dire.
C'est pas possible, vous rigolez.
Et enfin, pour terminer, comment s'appelle le coureur qui s'est vautré mais a gagné le GP Kipengen 2026?
Ah ouais.
Stoltz.
Presque.
Je suis pas loin.
Ouais, on en a
parlé. C'est presque. C'est pas Stoltz, mais ouais, il y a quelques bonnes lettres. Là, normalement, si on était dans Motu, je ferais.
Là, je vais choper la boule noire très rapidement, surtout.
Comment?
Slock.
Ah, Jérôme qui ne terminera pas dernier, mais la victoire sans contestation possible.
Non, il y a réclamation.
Il y a pas réclamation possible. Il y a pas de réclamation possible.
On attendra tout simplement.
Où ta défaite.
On attendra tout simplement le jury des commissaires qui. On revient dans le communiqué. Victoire de Maria Hervé et amende de 200 francs suisses pour Jérôme Coppel.
Quel vol. Voilà. C'est fini. C'était ma dernière.
Je t'envoie mon RIB pour les francs suisses. Allez les amis, restez connectés au peloton RMC et on va vous proposer notamment cette semaine le roadbook du Tour de Suisse auquel participe Tadej Pogacar.
Le peloton RMC,